France Culture.
Début d'une semaine courte de trois émissions consacrées à l'histoire des drogues dans la fabrique aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la longue histoire du haschich. Demain, nous évoquerons la pénalisation des drogues. Jeudi, nous débattrons de leur usage dans les conflits armés. Et aujourd'hui, alors que les douanes ont annoncé il y a quelques jours une saisie record de 7 tonnes de cannabis en France, nous vous proposons une réflexion sur les différents regards que la société occidentale a portés avant de le pénaliser sur l'usage du haschich et ce qui s'y a donné. Un usage créatif, un usage récréatif, un usage divertissant avant justement que le pénal ne s'y intéresse. C'est au cœur du documentaire qui est signé aujourd'hui Olivier Chaumel et Françoise Camard, jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire, avec les témoignages et les analyses de Aziz Chouaki, de Christiane Dijot, d'Emmanuel Pierra, de Denis Richard et de Jean-Jacques Ivorel, mais aussi les voix de Henri de Montfred, de René Huyck, de Jacques Chancel et de Gabriel Naas.
SCH, C-H-I-C.
H-A-C-H-I-C-H.
C-H-I-C-H.
C-H-I-C.
H-A-S-C-H-I-S.
S-C-H-I-S-C-H-I-C-H.
H-I-C-H.
On peut supprimer des S, on comprend tout aussi bien. Voilà, hashish.
J'ai regardé le petit Robert et on préconise S-C-H puis C-H.
Le haschich. Descartes aurait séjourné à Amsterdam. Il aurait habité dans un hôtel qui était situé au-dessus d'une haschicherie, quoi. On faisait de la petite chimie du kiff, quoi. Durant le brûlé pour dissocier l'huile, etc. Il paraîtrait que les vapeurs de kiff sont montées jusqu'aux narines de Descartes. Et c'est là où il écrivit le discours de la méthode, quoi.
Théophile Gautier nous dit que dans l'état du haschich, ce qu'on voit, c'est soi-même agrandi, sensibilisé, excité démesurément. Et à ce moment-là se produit l'anomalie qui suit toujours l'intensité. Un dérèglement dans une machine surtendue, survoltée, un dérèglement suit fatalement l'expérience, la première phase de l'expérience. Et ce qui va se produire, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qui est à la base de la grande théorie romantique, c'est ce que les Allemands ont appelé l'Einfühlung.
Histoire du haschich. Olivier Chaumel, Françoise Camard.
Le nom seul le dit. En arabe, celui qui consomme le haschich, ce sont des haschichins, dont nous avons fait le mot assassin.
Henri de Montfred, 1971.
Parce que ceux qui employaient cette drogue, qui s'étaient réfugiés dans une montagne précisément parce qu'ils l'employaient d'une façon illégale, c'est-à-dire qu'ils ne s'astreignaient pas aux règles qu'on impose à ceux qui l'emploient. Et ils descendaient dans les plaines, dans des accès de folie, massacraient, faisaient des choses épouvantables, d'où le nom assassin.
Il semble bien que le chanvre soit apparu dans l'Himalaya indien. Il y prospère d'ailleurs toujours. Les chemins caillouteux des montagnes, en baume ou en peste, selon les goûts, de son odeur si caractéristique. Les hommes ont eu au fait s'apercevoir des propriétés stupéfiantes de cette jolie plante. Et le cannabis, non savant du chanvre, qui n'est pas difficile d'acclimatation, s'est disséminé de par le monde, au gré des échanges commerciaux, des migrations et des guerres. D'abord dans toute l'Asie, puis en Afrique et en Europe, et depuis l'Europe jusqu'aux Amériques. On l'a d'abord consommé tel quel, mangé ou fumé. Puis on a inventé toutes sortes de préparations destinées à concentrer les principes actifs, dont le fameux Delta-9 tétrahydrocannabinol. Ainsi est né le hashish, qui porte une multitude de petits noms, Majoun, Dawamesk, Charas dans son pays natal, Chichon pour les intimes. Après s'être propagé discrètement dans le monde entier, voilà que dans les années 1840, le hashish se recristallise au bord de la Seine, dans un hôtel particulier, aujourd'hui propriété de la ville de Paris, sur la rive nord de l'île Saint-Louis. Dans cette belle demeure où nous irons, flottent encore les mânes de bien des grands hommes dont on ne se doute pas toujours, en passant par les rues qui portent leur nom, qu'ils se soient livrés à de si dangereuses fantaisies. Le mot lui-même, hashish, s'écrit exactement comme on veut. L'orthographe n'en est pas fixée. C'est assez rare pour être souligné. Denis Richard.
Dans ce domaine, bien évidemment, l'empirisme fait loi. Il est très probable que les sociétés anciennes ont remarqué, utilisé cette plante, peut-être en la consommant, la mâchant, en l'ingérant dans un premier temps, en la fumant également, on constatait ses propriétés psychoactives notamment. On en fait une plante médicinale et on cherchait ensuite à améliorer ses propriétés en concevant des modalités d'utilisation bien différentes. Par exemple, en trempant la plante dans du lait, en fabriquant donc une sorte de boisson. Les corps gras ont la particularité d'extraire en quelque sorte les substances qui agissent sur le cerveau dans la plante, et cela permet d'améliorer évidemment l'efficacité de ces préparations. Et le tout était aromatisé avec différents aromates, épices, par exemple de la pistache, etc. Donc c'était une préparation plus ou moins molle, qui était donc assimilée à une sorte de confiture, qui avait une couleur un petit peu glauque. On l'appelait la confiture verte, mais en fait elle n'avait rien de véritablement chlorophyllien. Et elle a été utilisée, mangée telle quelle, ou grossièrement tartinée, mais souvent prise carrément à la petite cuillère, et déclencher les effets psychoactifs que l'on peut imaginer. C'est un type de préparation que l'on retrouve d'ailleurs plus tard, au XIXe siècle. C'est la fameuse confiture, entre guillemets, de hashish, le dawamesk, utilisé par les intellectuels et les artistes en France dans le milieu du XIXe siècle.
Gautier nous dit « Il me passa un éclair rouge sous les paupières. »
René Huyghe, 1955.
Et alors, tout se transforme. Tout était plus riche, plus grand, plus splendide. La réalité ne servait que de point de départ aux magnificences de l'hallucination. Et suit toute une description qu'ils nous donnent l'un et l'autre des phases successives de cette hallucination, tantôt phase apaisée, tantôt phase de gaieté, tantôt phase de terreur, jusqu'au moment où Gautier, ce qu'un caricaturiste aurait pu trouver à l'avance, se trouva doté d'une tête d'éléphant, et où il descendit pour sortir l'escalier, ce qui, dit-il, ne lui demanda pas moins de 10 000 ans, car le temps était véritablement suspendu, en même temps que le sens de l'espace était transformé.
Aziz Chouaki, vous êtes écrivain, dramaturge,
oui.
Musicien également. Hashish, c'est un mot d'arabe.
C'est un mot d'arabe.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire herbe au sens générique, quoi. Le gazon, c'est du hashish, au sens très large, hein. Si je dis les vaches mangent du hashish, c'est les vaches mangent de l'herbe, quoi. L'étymologie du mot hashish en arabe, ça veut dire strictement herbe au sens agricole, quoi.
À lire, par exemple, Théophile Gautier, on comprendrait que le hashish s'est développé dans le monde arabe, au sens général, parce que l'islam prohibait le vin.
Oui, complètement. On peut accréditer ça, d'autant qu'en fait, le Coran, à la lettre, si vous voulez, interdit tout produit qui pourrait détourner l'attention de la prière. Le Coran, littéralement, interdit tout produit. Donc, si vous voulez, les juristes musulmans avaient inclus, effectivement, le hashish là-dedans. Et parce qu'effectivement, à l'époque, les gens qui prenaient du hashish étaient considérés comme des libres penseurs, donc un peu libertins et, disons, presque asociaux. Et donc, anti-religieux, quoi.
Mais il y a quand même une dimension spirituelle à ce produit.
C'est ce qui est paradoxal, parce que certaines philosophies de l'islam le préconisent, quoi. Par exemple, la philosophie soufie, en particulier Rumi, préconise ça dans ce qu'il appelait la philosophie illuminative. Elle fait ça faire Moucharakaya. Et donc, à ce titre, effectivement, c'était considéré comme un ingrédient positif. Et à l'inverse de cela, certaines autres sectes intégristes musulmanes considéraient que c'était, si vous voulez, la porte ouverte à la sorcellerie, au diable, etc. Ce qui a été le cas, malheureusement, quoi. Donc, si vous voulez, on a les deux tendances, bénéfiques et maléfiques.
Il y a une légende un peu fondatrice, Denis Richard, sur l'histoire du haschich, c'est celle de la secte des assassins, adorateurs du vieux de la montagne.
Belle histoire qui est totalement crédible sur ses bases scientifiques et qui a donné lieu ensuite à la naissance d'une certaine mythologie, bien sûr. Ce vieux de la montagne était un dignitaire religieux qui vivait au XIe siècle, dans l'ancienne Perse, à peu près à 100 km au nord de Téhéran, dans une forteresse qui s'appelait Halamut, la forteresse, le nid de l'aigle, et il était responsable en quelque sorte d'une secte ismaélienne, donc c'est une branche du chiisme, et essayait bien sûr de convertir les populations autour de la forteresse de la véracité de son interprétation de la religion. Et cette secte est entrée dans l'histoire européenne, du moins, sous le nom de secte des assassins, tout simplement par une confusion sémantique entre assassin, tel que nous le connaissons actuellement, qui dérive d'un terme qui désignait les sarrasins au Moyen-Âge, et un mot arabe qui en fait désigne les personnes qui suivent le fondamentalisme religieux. Donc en fait, c'était un groupe de fondamentalistes. Alors il faut dire que cela a de quoi étonner, évidemment, et un historien anglais, Bernard Lewis, a longuement étudié cette question. Il est fort probable que le haschich n'était pas à l'origine d'exactions spécifiques, bien évidemment, dans la mesure où la population locale avait très largement recours au cannabis et à ses dérivés à cette époque. Donc rien qui puisse évidemment mobiliser particulièrement le fanatisme des soldats. Il est plus probable que la préparation que prenaient les guerriers en question était enrichie de substances hallucinogènes, notamment de dérivés de plantes de la famille des solanacées, et que sous l'influence de ces plantes, ils avaient des visions extatiques qu'ils interprétaient comme une vision du paradis. D'où les liens entre ces exactions, la secte des Hashashin, et le terme assassin, mais qui en fait est une pure fantaisie, une pure création des orientalistes du 19e siècle.
H-A-S-C-H-I-C-H.
Ce que le romantisme cherche, et ce qu'il trouve, vous le voyez là avec une certaine bonne volonté, c'est la multiplication de soi, la multiplication de ses dents, et surtout l'excitation d'une faculté qui est la faculté majeure du romantisme, qui est l'imagination. Les romantiques cherchaient un de ces puissants exaltants, et le vin n'était pas suffisant. Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas Moreau de Tours qui leur ait apporté la clé des stupéfiants. Car c'est en 1845, l'année même où a été fondé le club du haschich, que Moreau de Tours a publié un ouvrage intitulé « Du haschich et de l'aliénation mentale ». Vous voyez qu'il y a toujours intérêt à ne pas isoler une étude et à la comparer aux autres branches de l'esprit. Et en effet, c'est à ce moment-là que dans les domaines littéraires, peut-être à la suite de la lecture de l'ouvrage scientifique de Moreau de Tours, c'est à ce moment-là qu'on va faire l'expérience du haschich, et nous allons voir en effet littérairement Baudelaire effectuer le passage en mars 51, quand il va publier « Du vin et du haschich comme moyen de multiplication de l'individualité ». Baudelaire est toujours un homme si lucide. C'est cela que les romantiques cherchent, multiplier son moi. Alors que le classique cherche à le concentrer et à l'unifier, le romantique cherche à le multiplier.
Ah, ah, H-A-C-H-I. Théophile Gautier, 1843. La dose d'une cuillerée suffit aux gens qui n'ont pas l'habitude de ce régal de vrais croyants. L'on arrose le haschich de quelques petites tasses de café sans sucre, à la manière arabe. Et puis l'on se met à table comme à l'ordinaire, car l'esprit du chanvre n'agit qu'au bout de quelque temps. Le couvert enlevé, j'allais m'asseoir, ayant encore ma raison, sur le divan, où je m'arrangeais le plus commodément possible pour attendre l'extase. Au bout de quelques minutes, un engourdissement général m'envahit. Il me sembla que mon corps se dissolvait et devenait transparent. Je voyais très nettement dans ma poitrine le haschich que j'avais mangé, sous la forme d'une émeraude d'où s'échappaient des millions de petites étincelles. Les cils de mes yeux s'allongeaient indéfiniment, s'enroulant comme des fils d'or sur de petits rouets d'ivoire qui tournaient tout seuls avec une éblouissante rapidité. Autour de moi, c'était des ruissellements et des écroulements de pierreries de toutes couleurs, des arabesques, des ramages sans cesse renouvelés, que je ne saurais mieux comparer qu'au jeu du kaléidoscope. Je voyais encore mes camarades à certains instants, mais défigurés, moitié homme, moitié plante, avec des airs pensifs d'ibis debout sur une patte, d'autruche battant des ailes, si étrange que je me tordais de rire dans mon coin, et que pour m'associer à la bouffonnerie du spectacle, je me mis à lancer mes coussins en l'air, les rattrapant et les faisant tourner avec la dextérité d'un jongleur indien.
Jean-Jacques Ivorel, comment naît ce cénacle autour d'un personnage qui est un aliéniste, qui s'appelle Joseph Moreau de Tours?
Alors Joseph Moreau de Tours, c'est un élève d'Esquirol, donc le célèbre psychiatre, et après sa thèse, qui portait pas du tout sur le haschich, il est parti faire un long voyage avec un patient de son maître, qu'il accompagnait dans une sorte de voyage thérapeutique, qui a duré 3 ans, donc c'est une thérapeutie de long cours.
Le patient emmène son psychiatre.
Voilà, emmène son aliéniste. C'était un patient assez fortuné. Et donc, il commence par la Suisse, l'Italie, puis l'Égypte, la Nubie, la Palestine, le Moyen-Orient. Et durant ce périple, Moreau de Tours découvre le haschich, parce que c'est d'un usage assez courant, notamment en Égypte. Et cette découverte va avoir pour lui une énorme importance, parce que, comme aliéniste, il a une certaine vision des causes de la folie. Pour lui, la folie, il a une vision, si on parlait en langage moderne, on dirait psychodynamique de la folie. La folie, c'est dans le cerveau en fonctionnement qu'elle se met en place, et donc le scalpel de l'anatomopathologiste ne verra rien. Le haschich, c'est un produit pour lui fantastique. Pourquoi ? Parce que il dit, finalement, le haschich met des gens en état de santé dans un état qui est totalement semblable à l'état de folie. Parce qu'il a une autre idée, c'est qu'il y a un moment où on est tous fous, c'est quand on rêve. Pour Moreau de Tours, il y a une stricte identité du rêve et de la folie. Ça, c'est très très important pour lui. Une stricte identité du rêve et de la folie. Puisque quand on rêve, on ne contrôle pas notre cerveau, comme le fou ne contrôle pas le fonctionnement de son cerveau. Donc l'idée de Moreau de Tours, c'est que en observant ce qu'il se passe quand on consomme du haschich, en l'en consommant lui-même, il va découvrir quelle est la cause primordiale de la folie. Ça, c'est sa première idée. Il ne découvre pas la cause primordiale de la folie, il fait quelques hallucinations sympathiques, mais ça s'arrête là. Et alors il va avoir une deuxième idée, c'est que puisque cette substance, quand on la donne à des gens en état de santé, les met en état de folie. Si on la donne à des gens en état de folie, ça pourrait bien les ramener à l'état de santé. Selon les principes, écrira un de ses élèves,
de l'homéopathie, hein, on soigne le mal par le mal. Voilà. Donc c'est très important parce que Moreau de Tours va être le fondateur de la psychopharmacologie. À partir de Moreau de Tours, à chaque fois qu'on découvrira une substance psychoactive, et il n'y a aucune exception à cette règle, on l'essaiera dans les asiles d'aliénés. Voilà. Mais on a tout essayé. La morphine, la cocaïne, les amphétamines, les barbituriques. Au fur et à mesure qu'on invente une nouvelle substance qui a une action sur le cerveau, on va l'essayer dans les asiles d'aliénés jusqu'à l'invention des neuroleptiques, hein, qui sont aussi des substances psychoactives.
Dans le cas du haschich, Moreau de Tours croit dur comme fer à ses vertus thérapeutiques dans le cadre du traitement des troubles mentaux.
Oui, c'est à la fois un objet d'étude qui est capable de modifier la maladie mentale. De créer une maladie mentale, c'est aussi probablement dans son esprit un médicament qui est capable de traiter les maladies mentales. On peut observer que plus tard dans l'histoire, un tel discours sera tenu avec le LSD, hein, qui est à la fois une drogue hallucinogène, mais qui a pu être utilisée également par des psychiatres dans le cadre de cures dites psycholytiques, qui avaient pour but de traiter certaines pathologies mentales. Donc c'était quelque chose de très logique en soi, bien sûr.
Joseph Moreau de Tours, il n'hésite pas à payer de sa personne. Enfin, il goûte à tout.
Moreau de Tours, il écrit
pas l'empoisonnement, ni les risques de la dépendance.
Il écrit même en substance qu'on n'a pas le droit de parler du haschich si on ne l'a pas essayé soi-même. Hein, donc il dit...
Qu'en pensez-vous?
Si j'avais dû consommer toutes les drogues dont j'ai parlé, je serais dans un sale état. Donc, je partagerais pas totalement son opinion.
Si la dose a été considérable, il n'est pas rare de voir survenir des phénomènes nerveux qui, sous beaucoup de rapports, ressemblent assez à des accidents choréiques. Des bouffées de chaleur vous montent à la tête, brusquement, par jets rapides, comme ceux de la vapeur qui s'échappe du tuyau d'une locomotive. Ainsi que je l'ai entendu dire plusieurs fois, le cerveau bouillonne et semble soulever la calotte du crâne pour s'échapper. Cette sensation, qui cause toujours un peu de frayeur, quelque aguerri que l'on soit, a son analogue dans le bruit qu'on entend quand on a la tête plongée dans l'eau. Les éblouissements sont rares. Je n'en ai jamais éprouvé. Les tintements d'oreilles, au contraire, sont fréquents. On éprouve parfois de l'anxiété, une sorte d'angoisse, un sentiment de constriction de l'épigastre. Après le cerveau, c'est vers cette région que les effets du haschich paraissent avoir le plus de retentissement. Un jeune médecin disait qu'il croyait voir circuler le fluide nerveux dans les rameaux du plexus solaire. Jacques-Joseph Moreau de Tours, 1845.
Donc c'est dans cet appartement qu'à peu près tous les mois se réunissait une pléiade d'hommes de lettres, de peintres, d'artistes divers, parmi lesquels on reconnaissait des figures éminentes de l'époque, comme Gérard de Nerval, Flaubert, Alexandre Dumas, Balzac, Daumier, Delacroix et Baudelaire, qui s'y rendait régulièrement, bien qu'il n'apprécie que fort médiocrement les effets induits par le haschich.
Ce n'est pas Moreau de Tours qui invite, mais un peintre qui s'appelle Fernand Boissard et qui habite ici, à l'hôtel de Pimodan.
Voilà, et
comment s'agrègent tous ces personnages ?
Alors d'abord, bon, ce qu'il faut savoir, c'est quand même la proximité qu'il y a au XIXe siècle entre le monde de la médecine et le monde des lettres. Moreau de Tours va avec un de ses collègues qui s'appelle Aubert Roche, qui est aussi dans cette affaire, va en effet proposer à ces gens qu'il connaît, va leur proposer d'essayer le haschich.
Hein. Il lance une invitation mondaine en quelque sorte, il dit venez ce soir chez Boissard, j'amènerai du haschich.
C'est à peu près ça. Hein. Le club, on a parlé du club des haschichines, c'est pas un club au sens, ils n'ont pas de statut déposé à la préfecture, etc. C'est un groupe de gens qui se connaissent et qui...
Informel,
voilà.
Le mot de club correspond à une certaine anglomanie de l'époque,
oui,
peut-être.
Oui, tout à fait. Mais il y a un point commun quand même aussi qui explique l'usage du haschich, qui est que ce 19e siècle voit une transformation, j'allais dire, du rapport de soi à soi. y compris dans la littérature. Et c'est avec le romantisme que va se développer fortement cet aspect introspectif de la littérature. Avant, les souvenirs, c'est les souvenirs de la geste publique. Et parallèlement, alors, ça va provoquer aussi un changement du statut du rêve. Hein ? Le rêve, jusque-là, c'est le rêve de la Bible. Les sept vaches grasses suivies des sept vaches maigres. C'est le rêve divinatoire. Hein ? Grâce au rêve, ça nous dit quelque chose de l'avenir, etc. Et le rêve va changer de fonction, ça va devenir un rêve d'introspection, un rêve de connaissance de soi, un rêve qui permet d'aller plus loin dans la connaissance de soi. Et donc, les gens de lettres vont trouver dans le haschich un produit aussi assez fantastique, puisque la fonction onirique permet la stimulation de la créativité. Donc ça, pour ça, c'est fantastique, mais il y a un défaut, c'est que quand on rêve, on dort et qu'on s'en souvient que d'un tout petit bout. Et avec le haschich, c'est fantastique, puisqu'on rêve sans dormir, et donc on peut, noter pendant même les effets du produit, et donc on a le rêve en entier à sa disposition pour créer de l'œuvre littéraire.
Devant chacun des invités, on déposa, nous dit Théophile Gautier, un morceau de pâte ou confiture verdâtre, gros à peu près comme le pouce, posé à côté d'une cuillère de vermeil sur chaque soucoupe. Chacun des invités fut convié à prendre ce morceau de confiture, sur lequel on lui servit, au témoignage de Gautier, que confirme d'ailleurs le témoignage de Baudelaire par ailleurs, un café à la manière arabe. Et c'est après le café, selon tous les rites d'ailleurs confirmés par les spécialistes du haschich, c'est après le café que se prenait le souper. On passait à table. Et l'action du café, conjointe avec celle du repas, faisait que, au moment de la digestion, les premiers effets du haschich se produisaient, et c'est à ce moment que l'on passait dans le grand salon. Là, on s'asseyait et on commençait à ressentir les premiers effets de la drogue.
S-C-H H-A-S-C-H.
Où trouve-t-il la préparation, les haschichins ?
Oh, sans problème. Le haschich dans le Paris du 19e siècle est d'un accès facile, exactement comme l'opium. Il faut souligner qu'à l'époque, son usage n'est pas prohibé, donc il n'y a pas de raison, à partir du moment où il y a des consommateurs, qu'il n'y ait pas un marché, en quelque sorte, qui se soit développé. En plus, des personnes comme les aliénistes, comme pouvait l'être Moreau de Tours, avaient suffisamment de relations, bien sûr, pour pouvoir sans problème se procurer du haschich.
Il n'y a pas d'opprobre par rapport à ces consommations. Je vais faire une citation. Je l'aime bien parce que c'est un aliéniste qui s'appelle Brière de Boismont. C'est un personnage qui a dû rire trois fois dans son existence. Catholique, très pratiquant, intransigeant, etc. Donc le contraire de Baudelaire ou de ses fêtards, ou même de Moreau de Tours, qui aimait bien faire la fête, on va dire, lui, pas du tout. Et voilà ce qu'il écrit sur les substances psychoactives auxquelles il a goûté lui aussi. À notre point de vue, l'étude des hallucinations dues au protoxyde d'azote, à l'opium et au haschich permet de constater que certains stimulants, lorsqu'ils ne dépassent pas la mesure, donnent de la plasticité aux idées ou, suivant nous, leur rendent les signes sensibles. Les phénomènes énumérés, tels que le sentiment de bien-être, l'activité plus grande des idées, leur spiritualité, leur revivification, la rapidité du retour des souvenirs, la force de la mémoire, le pouvoir de créer, les horizons infinis de l'esprit, son détachement des choses terrestres, l'oubli du temps et de l'espace, sont pour nous les conditions des ferments nécessaires pour les créations de l'esprit. De tels propos tomberaient aujourd'hui sous le coup de la loi pour apologie des substances stupéfiantes.
Présentation sous un jour favorable d'une substance interdite.
Voilà. Et je vous dis, Brière de Boismont, c'est le contraire d'un mondain festif. C'est un personnage très austère.
Et en ce qui concerne le haschich, on peut dire que c'est un produit qui concerne très peu de gens.
Très très peu. C'est extrêmement marginal. Et ça le reste pendant tout le XIXe siècle et tout le premier XXe siècle.
Pourquoi soudain est-ce qu'on interdit différents produits par la loi du 12 juillet 1916 Emmanuel Pierrat.
Il s'avère que pour la France, le haschich, puisque c'est la substance qui nous préoccupe, le haschich a été interdit en plein milieu de 1914-1918 de la Grande Guerre, de la boucherie, et donc était considéré comme une substance ayant des effets démoralisants, qui ne pouvait pas aider les soldats à se maintenir au combat, et il fallait de nouveaux soldats encore et toujours plus. Donc ni buveur d'absinthe, qui est interdit en 1915, ni fumeur de haschich, qui est interdit en 1916. Donc les substances comme l'absinthe et le haschich sont démotivants. En revanche, le vin Mariani, qui est un vin avec de la pâte de cocaïne dedans, hein, de la pâte de coca, un vin rouge très fort et de la pâte de coca,
est
très populaire et distribué par l'armée, financé par l'armée, parce qu'il galvanise, parce qu'il rend euphorique et qu'il permet d'aller se faire trouer la peau en chantant quasiment.
Alors la loi de 1916, bon, faudrait refaire toute sa jeunesse, c'est un peu compliqué. D'abord, elle, dans un premier temps, elle ne porte que sur l'opium. Et puis dans le cours des débats, on va dire oui, mais il n'y a pas que l'opium, il y a aussi la cocaïne, le poison Bosch. Pourquoi le poison Bosch? Parce que la meilleure cocaïne vient des laboratoires Bayer allemands. Il y a la vieille morphine, et puis il y a aussi l'héroïne, et puis donc on va rajouter donc l'opium, la cocaïne. Et puis bon, il y en a qui disent, et le haschich, il ne faudrait pas l'oublier, donc on met le haschich. Bon.
Loi du 12 juillet 1916 concernant l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses, notamment l'opium, la morphine et la cocaïne. C'est trois substances qui sont évidemment devenues très à la mode sur les 20 ou 30 dernières années qui précèdent 1916. Donc elles sont associées en quelque sorte. La loi du 19 juillet 1845 sur les substances vénéneuses est modifiée et complétée comme suit. Donc la loi du 19 juillet 1845, c'est celle qui concerne les poisons, l'arsenic et l'opium. Article 1er. Les contraventions aux règlements d'administration publique sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses sont punies d'une amende de 100 000 à 300 000 francs et d'un an d'emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 2. Seront punies d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront contrevenu aux dispositions de ce règlement concernant les stupéfiants tels que opium brut et officinal, extrait d'opium, morphine et autres alcaloïdes de l'opium, à l'exception de la codéine, de leur sel et de leurs dérivés, cocaïne, ses sels et ses dérivés, haschich et ses préparations. On voit bien que le haschich est rajouté, in fine, en quelque sorte, n'est pas l'objet fondamental. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront usé en société des dites substances, donc c'est l'usage social qui est un problème, l'usage collectif, festif éventuellement, où en auront facilité à autrui l'usage à titre onéreux ou à titre gratuit, soit au procurant dans ce but un local, soit par tout moyen. L'idée de procurer un local, c'est la fumerie. C'est véritablement la désignation de ce que sont les fumeries. Alors il n'y a pas de fumerie de haschich proprement dite en 1916 à Paris, il y a en revanche des fumeries d'opium, donc dans lesquelles on peut trouver du haschich accessoirement, mais qui n'est pas le produit premier. On voit bien que dans ces produits, on a des produits qui sont des produits de plaisir ou de détente, qui sont à l'opposé de ce que sont les préoccupations en 1916 de la France. On n'est pas dans le plaisir, on n'est pas dans la détente, on est dans le combat, dans la boucherie, on est dans la nécessité d'envoyer des hommes de plus en plus jeunes ou de plus en plus vieux, d'ailleurs on élargit dans les deux sens, au combat, parce qu'il faut du monde dans les tranchées. Et la tranchée, elle n'est pas vraiment compatible avec le fumeur de joint.
Voilà, la chambre de Charles Baudelaire, qui est maintenant un bureau d'un chercheur.
Oui,
c'est... Vous êtes surpris peut-être? Vous attendiez à autre chose?
C'est-à-dire qu'on est moins directement dans l'ambiance. Le mobilier est moderne.
Mais à peine, vous savez, c'était pas très propre, mais c'était un petit peu comme ça. Imaginez, sombre, mais le même... Même aspect. Je vous propose d'aller, parce qu'il avait trois pièces. Là, on est dans la première, on va aller dans les deux autres, qui sont également des bureaux. Pardon. Deuxième pièce de l'appartement de Charles Baudelaire.
L'imaginaire du poète maudit vivant dans un taudis en prend un coup, parce que finalement, un trois pièces ici...
Dernière pièce, Voilà, donc ils se réunissent ici et monsieur Pichon n'est pas du tout content du bruit et de l'agitation que ça suscite.
Ce sont des voisins...
Bruyants. Voilà ce que répondait Baudelaire au baron Pichon qui lui faisait des remarques sur le bruit. « Je fends du bois dans mon salon. Je traîne ma maîtresse par les cheveux. » Cela se fait chez tout le monde et vous n'avez nullement le droit de vous en occuper.
De ce qu'on sait, Jean-Jacques Ivorel, c'est que le club des Hachichins se réunit ici à l'hôtel de Lauzin, autrefois Pimodan, à partir de 1843 jusqu'en 1849. Pourquoi est-ce qu'on procède en quelque sorte à sa dissolution ?
Parce que je pense que l'intérêt pour le hachich des protagonistes de cette affaire diminue. Bon, Gauthier arrête, bon, ça ne l'intéresse plus, il a fait le tour de cette question. Et côté des médecins, l'intérêt thérapeutique du hachich disparaît, parce que bon, on remarque certes, ça a un effet sur les aliénés, et celui qui se prenait pour Louis XIV se prend pour Napoléon, mais ça il reste toujours aussi délirant. Donc,
ça ne fait pas une grosse amélioration.
Ça
ne
fait pas vraiment une grosse amélioration, donc on abandonne un peu cette substance. Il y a en matière de stupéfiants, comme dans toutes les autres matières, des phénomènes de mode, des produits qui sont à la mode, qu'on consomme, et puis des produits qu'on délaisse.
On pourrait la trouver assez clémente, la loi du 12 juillet 1916, parce que les peines encourues sont relativement légères.
Les peines, elles sont quand même assez lourdes. 6 jours à 2 mois, 3000 francs d'amende, c'est pas non plus des petites peines. Hein. À l'échelle de l'époque, ce sont des peines modérées. Hein. Évidemment, la peine capitale, donc, qui consiste à vous couper la tête, était quand même le but suprême du législateur. On en est loin. Mais ce sont pas non plus des simples amendes. C'est déjà un délit. On rentre déjà dans la catégorie des infractions, on va dire, lourdes. On n'est plus du tout dans quelque chose qui est récréatif et qui serait comme ça, simplement confisqué avec une petite amende. Ce qui ressemble un peu à l'état d'esprit contemporain qu'on applique au hachiche, hein, sur la simple détention. On est là à un moment où on peut réellement envoyer en prison les consommateurs de hachiche.
Et c'est ce qui se produit ?
Et c'est ce qui produira pas tout de suite. Sur l'opium, ça viendra assez vite. Il y aura une tolérance pour des personnages qui sont amusants. Henri de Montfreyde raconte très bien dans ses mémoires comment il finissait par consommer énormément de hashish, hein, et d'opium par ailleurs. Et comme il avait besoin d'être sûr des dosages qu'il prenait, il allait à la poste de son village en France pour pouvoir faire peser chaque jour ses petites portions devant la balance de la postière publique. Voilà, sans lui cacher de quoi il s'agissait. Donc, une forme de tolérance. Et en même temps, pour ceux qui se lancent dans le trafic, parce que très vite, le trafic va arriver, surtout de l'opium et beaucoup plus tard du hashish, là, en revanche, il y a une répression policière forte. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent. C'est une délinquance qui produit de l'argent. La drogue est une substance qui produit des délinquants et des criminels riches. Et ceux-là, ils intéressent l'État. Parce que ceux-là, ils sont taxables. Parce que ceux-là, on peut leur confisquer les billets. Parce que ceux-là, on peut saisir leurs biens et les vendre. Donc la répression, elle va s'aggraver, c'est-à-dire que les peines de prison vont devenir colossales, les amendes surtout vont devenir records, on le verra plus tard. Sur la base du même texte. Donc on augmentera les paliers de telle façon qu'on puisse saisir toutes ces richesses. Donc la drogue est un sujet de préoccupation économique pour l'État, qui non seulement n'a pas réussi à le taxer en temps et en heure, mais en revanche sait que ceux qui en profitent sont des gens qui ont de l'argent.
Que vous pensez, Aziz Chouaki, qu'il y a une approche particulière à l'oriental de ce produit, le hashish ?
Il y a quelque chose de profondément culturel qui vient surtout du Maroc. C'est le hashish, contrairement à l'Occident, qui considère ça souvent comme une défonce. Au Maroc, c'est perçu au contraire comme une élévation spirituelle. Par exemple, dans presque toutes les familles marocaines, lors d'un dîner, par exemple, à la fin du dîner, il y a le rituel du hashish, du kif, qui est considéré comme culturel dans toutes les familles. Il n'y a pas d'interdit. En général, c'est le rôle des femmes, donc de l'épouse ou des filles, des jeunes filles de la famille, qui ramènent à la fin du repas tout le kit, si vous voulez. Les pipes, en général, c'est dans une boîte en fer blanc, où il y a le kiff, les allumettes, en fait, tout ce qui, le peu de tabac qu'il faut mélanger, etc., quoi. Elle dépose ça devant le père de famille et éventuellement devant les invités. C'est presque obligatoire là-bas. Et c'est très souvent d'usage très masculin. Il y a de l'usage féminin, mais c'est un peu plus en cachette, quoi. Et cette tradition, ce rituel, se fait dans pratiquement tout le Maroc, quoi. Après le fromage, on passe aux sucreries digestives et on arrive au kiff.
Qu'est-ce qu'on appelle le kiff ?
Le kiff, c'est le mélange du tabac et du cannabis. On ne peut pas parler de l'histoire du Maroc sans parler de l'histoire du hashish, de l'économie du hashish. C'était une multinationale, la régie des tabacs et du kiff au Maroc. C'était une société avec pignon sur rue. Hein. Et c'était une multinationale avec des capitaux occidentaux, dont français évidemment. Et c'est eux effectivement qui étaient chargés de réguler, de contrôler la qualité, la circulation, la culture même du hashish et du cannabis. Et c'est ça qui a été à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la filière marocaine du cannabis mondial, quoi, qui représente des tonnes et des tonnes de production annuelle. C'est considéré aujourd'hui comme les trois quarts de la production économique marocaine, quoi. Les trois quarts, je pèse mes mots.
Et le Maroc est de loin le plus grand producteur mondial de hashish.
Le premier producteur mondial. Au point où il y a un très grand danger qui se profile au Maroc, c'est que, si vous voulez, ça rapporte tellement de dividendes, quoi, y compris pour le petit producteur de base, que dans beaucoup de régions marocaines, y compris dans le Rif, ça tend à devenir la monoculture de base. Donc il n'y a plus de légumes, il n'y a plus rien du tout, ni d'herbes, ni de céréales. Et ça représente un véritable danger pour l'avenir du Maroc.
Jusque dans les années, jusqu'à la fin des années 60, c'est une consommation extrêmement rare. Les sources policières des années 60 indiquent deux sources de consommation. Une consommation chez les jazzmen américains du quartier latin. Et une consommation dans le prolétariat immigré d'Afrique du Nord, du Maroc même principalement. Donc une sorte de consommation traditionnelle qui n'inquiète pas beaucoup la police. Hein. Ils savent qu'ils font venir du hashish par colis postal du Maroc dans les foyers Sonacotra. On fume le hashish et la police le sait. Ils disent, bon, bah, ils n'ont pas l'alcool, ils ont le hashish. Ben voilà, c'est pas l'alcool, ils sont musulmans, c'est le hashish qui le remplace. Bon. Ça contribue à la paix sociale, donc il n'y a pas de problème. Donc il y a deux entrées, hein. Une entrée, on pourrait dire, autour d'une contre-culture américaine ou de la culture américaine, et une entrée d'une consommation traditionnelle d'un prolétariat, voire d'un sous-prolétariat d'origine nord-africaine. On assiste en effet à une sorte d'explosion de la consommation, assez tardive, hein, puisque quand en 68 on fouille la Sorbonne, après on trouve pas un gramme de hashish, hein. C'est la police qui le dit, hein. Et d'ailleurs pas un gramme de drogue. On trouve beaucoup de canettes et de bouteilles de produits fermentés ou distillés, mais pas un gramme de produits prohibés. Mais par contre, ça se développe en effet dans les années, à partir de 70, vont déboucher sur la loi de 70, votée à l'unanimité. Même si c'est une très mauvaise loi, selon son promoteur lui-même, je dis qu'elle est vraiment très très mal foutue, mais bon, on a une loi très répressive, puisqu'on est un des rares pays à pénaliser l'usage. Avec le Luxembourg, je crois. Les autres pays d'Europe pénalisent le trafic, etc., mais pas l'usage. Des drogues en général, et du hashish en particulier.
Les peines s'alourdissent en 70, hein, Emmanuel Pierrat. Mm-hmm. Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite des stupéfiants sont punis de 10 ans d'emprisonnement et de, alors à l'époque de l'écriture de la loi, 50 millions de francs qu'on a convertis en 7,5 millions d'euros.
C'est beaucoup, hein. Ça montre
ça n'est pas rien.
Voilà, ça n'est pas rien. Donc, c'est les deux sanctions les plus chères du code pénal. Tuer votre femme, découper vos enfants en rondelles, etc., n'est rien à côté d'être proxénète ou trafiquant de drogue, qui sont les deux délits qui ne sont pas des crimes, hein, d'ailleurs. Hein, donc, qui sont inférieurs au degré des crimes. Et qui sont punis financièrement beaucoup plus fort que tout ce que vous pouvez imaginer comme perversion dans la société française. Donc, il y a l'idée, évidemment, de penser que économiquement il faut casser les reins des trafiquants, mais il y a quand même l'idée aussi selon laquelle il y a de l'argent à prendre réellement. Et puis après, il y a tout un tas de choses qui deviennent très vite perverses, hein, c'est-à-dire qu'on verra s'organiser la possibilité qu'on connaît pour les services de police de garder une partie des prises pour pouvoir renégocier derrière avec des balances, hein, donc des indicateurs, à qui on fournira éventuellement des substances en échange de quoi ils leur fourniront des informations. Donc on est dans quelque chose qui est quand même assez étrange. Hein.
Et tout cela est valable pour toutes les substances citées dans la loi.
Pour toutes les substances. Elles sont toutes mises ensemble.
Quand on jette un coup d'œil aux débats parlementaires qui ont présidé à l'élaboration de la loi du 31 décembre 70, Emmanuel Pierrat, on s'aperçoit que ça se fait dans une atmosphère qu'on dira au moins conservatrice. Le rapporteur de la loi, c'est Pierre Mazeaud, qui est député UDR. Et elle s'ouvre comme ça, la loi du 31 décembre 1970, par cette formule que je trouve un peu étrange, que j'espère vous m'expliquerez. Toute personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants est placée sous la surveillance de l'autorité sanitaire.
Oui, on essaie de mettre ça sous l'ordre du médical, hein, ce qu'on a commencé à faire sous le code de la santé publique. C'est-à-dire à dire que ça n'est pas une volonté de la répression à tout prix, c'est un problème de soins, de prise en charge par le drogué de sa propre santé.
C'est pour votre bien, en quelque sorte.
Oui, c'est pour votre bien, en quelque sorte. On est face à des gens qui ne savent pas ce que c'est que la drogue.
Mais demain, on se droguera plus ou moins qu'aujourd'hui?
Eh bien, tout dépend.
Les choses sont mal parties.
Des circonstances sociales. Sans aucun doute, la drogue est devenue un problème de société. Ce n'est plus un problème médical. Et c'est dommage.
Jacques Chancel et Gabriel Naas, 1978.
Alors, vous disiez que c'était une recherche du bonheur. Mais il y a peut-être également une recherche de l'absolu.
Ah oui, certainement. Mais enfin, cette recherche de l'absolu est purement spécieuse. C'est une illusion. Parce qu'elle n'existe pas, hein, même pour l'individu conscient. Et alors, lorsque l'individu prend de la drogue, il pense qu'il communie avec l'éternel, comme disait un poète hindou. Parce que toutes ces sensations bénéfiques de la drogue, elles ont été décrites par les poètes hindous il y a 2000 ans, par les poètes arabes du temps du tapis volant et des contes des mille et une nuits. Ils ont écrit des poèmes magnifiques en célébrant justement toutes les sensations magnifique qu'ils avaient après avoir ingéré le hash, parce qu'à ce moment-là, le hash s'ingérait. Et ça sont les monographies arabes datent d'environ 800 ans. Et à côté de ces monographies qui chantent justement les bienfaits du hash, il y a celles qui mettent les jeunes surtout en garde contre les saisons du hash, qui proclament que le hash produit des dégâts physiologiques, des dégâts à la fonction de reproduction, des dégâts pulmonaires, des dégâts d'ordre digestif. Tout ça sont inclus dans des monographies anciennes, mais que personne ne connaît.
Il y a d'autres choses aussi. On trouve des textes sur le hashish et les drogues dans la loi du 16 juillet 1949 qui est sur les publications destinées à la jeunesse, qui interdit de présenter sous un jour favorable, moi j'adore toujours cette loi, le racisme, ça on comprend, l'antisémitisme, on comprend, la paresse, un peu moins, la lâcheté, pourquoi pas, et les drogues. Donc voilà, ce qui fait qu'on a interdit pendant de nombreuses années des livres susceptibles d'être vus par la jeunesse, c'est une loi qui est toujours en vigueur, hein. Au simple motif qu'il pouvait présenter de façon favorable, notamment la lâcheté, mais également la drogue. C'est comme ça que le festin nu de William Burroughs a été interdit. C'est en raison d'une loi sur les publications destinées à la jeunesse. Parce que le livre est certes un livre pour adultes, mais pouvait être acheté dans une librairie où des enfants pouvaient rentrer.
Je voudrais maintenant conclure. Croire que l'on peut sortir de son moi est une illusion. Baudelaire le dit, l'homme qui a pris le haschich est subjugué, mais pour son malheur, il ne l'est que par lui-même, car l'homme n'échappera pas à la fatalité de son tempérament physique et moral. Et qu'est-ce qu'il trouve au fond de cette expérience? Un miroir grossissant, mais un miroir. Et s'étant limité à lui-même, dans l'orgueil du moi, il est fatal qu'il retombe à lui-même et à la prison lui-même seulement. Il a mis sur cette prison des miroirs déformants. Baudelaire termine du vin et du haschich par ces mots: « Je ne comprends pas pourquoi l'homme, rationnel et spirituel, se sert de moyens artificiels pour arriver à la béatitude poétique, puisque l'enthousiasme et la volonté suffisent pour l'élever à une existence supranaturelle. »
Histoire du haschich avec Aziz Chouaki, romancier et dramaturge, Christiane Guigeot, conférencière à la ville de Paris, Emmanuel Pierrat, avocat, Denis Richard, chef de service à l'hôpital Henri Laborie à Poitiers, Jean-Jacques Ivorel, historien, et les voix de Henri de Montfred, René Huyghe, Jacques Chancel et Gabriel Naas. Texte lu par Mélodie Auru. Merci à Nicolas Millet, Jean-Pierre Galland, Didier Nourisson, à la Bibliothèque interuniversitaire de médecine, à l'Institut d'études de la boisson, à Angélique Mercier du service de presse de la ville de Paris et à la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse. Archivina, Aurélie Marseille et Arnaud Plançon. Prise de son, Laurent César, Yann Frécy et Valérie Lavalard. Mixage, Bernard Laniel. Histoire du haschich, Françoise Camard, Olivier Chaumel.
Nous continuons demain cette semaine courte de la Fabrique de l'Histoire en trois volets seulement, en évoquant une question déjà abordée dans le documentaire d'aujourd'hui, à savoir la question de la pénalisation des drogues. Si vous voulez écouter ou réécouter l'émission de ce jour ainsi que toutes les autres, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez écouter ces émissions pendant 1000 jours, les télécharger pendant un an après leur diffusion, laisser vos commentaires sur nos pages, nous écrire à fabrique@radiofrance.com ou encore discuter avec nous sur le groupe Facebook de la Fabrique de l'Histoire.